Laudetur Jesus Christus.
Naufrage meurtrier dans la Manche au large de Calais. 27 migrants qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne par la mer sont morts. Paris et Londres veulent unir leurs efforts pour empêcher ces traversées mortelles. Interpol élit aujourd'hui son président sur fond de polémique car le favori, le chef des forces de sécurité aux Émirats Arabes Unis, est sous le coup de plaintes pour torture. L'Afghanistan se débat dans les affres d'une crise humanitaire d'ampleur et la communauté internationale reste passive, s'indigne le CICR. Nous écouterons l'un de ses porte-paroles. Et puis l'amitié franco-italienne scellée aujourd'hui par un traité à Rome. Les deux voisins partagent beaucoup de choses, mais c'est une relation complexe et ambiguë que la leur. Nous essaierons toutefois de la décrypter. Rendez-vous dans notre dossier.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. 27 morts, c'est donc le bilan du dramatique naufrage survenu hier au large de Calais d'une embarcation où se trouvaient une cinquantaine de personnes parties de Dunkerque pour rejoindre la Grande-Bretagne. C'est le naufrage le plus meurtrier sur cette voie migratoire et il suscite une vive émotion des deux côtés de la Manche. Emmanuel Macron demande une réunion d'urgence des ministres européens concernés par ce qu'il appelle le défi migratoire. Marie-Christine Bonzon.
À la suite du naufrage meurtrier, le Premier ministre français Jean Castex ouvre en ce moment même une réunion interministérielle consacrée aux traversées de migrants clandestins dans la Manche. Tandis que les recherches se poursuivaient en mer hier soir, le ministre de l'Intérieur a indiqué que 4 passeurs ont été arrêtés et qu'une enquête est en cours pour aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée et pour homicide involontaire aggravé. Gérald Darmanin, mais aussi le Premier ministre et le président français fustigent les passeurs. Le chef d'État français lance par ailleurs 2 appels aux autres pays de l'Union européenne. Il exige le renforcement immédiat des moyens de Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières. En outre, il réclame la réunion d'urgence des ministres européens concernés par l'immigration, un dossier qui domine la campagne présidentielle en France. Pour sa part, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, qui remonte dans les sondages et s'affirme à nouveau comme le principal rival de M. Macron lors de l'élection d'avril, met le drame sur le compte du gouvernement qu'elle accuse de laxisme en matière migratoire et de faiblesse coupable à l'égard des réseaux de passeurs. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
Outre-Manche, Boris Johnson a aussi convoqué une réunion de crise de son cabinet avant de s'entretenir par téléphone avec le président français. Londres et Paris ont convenu d'intensifier leurs efforts pour empêcher ces traversées. Ils ont insisté aussi sur l'importance d'une collaboration étroite avec les voisins belges et néerlandais. Aussitôt élue, aussitôt démissionnaire, la première ministre suédoise élue par le Parlement hier a jeté l'éponge quelques heures après seulement. Magdalena Andersson, économiste de formation et première femme à ce poste, a en effet échoué à faire voter son budget. Le parti écologiste ayant claqué la porte de sa coalition au dernier moment. Les chefs de parti se réunissent aujourd'hui pour décider de la suite. Après 8 semaines de négociations, le social-démocrate Olaf Scholz a présenté hier son contrat de coalition négocié durant 8 semaines avec les écologistes et les libéraux. L'Allemagne aura donc très bientôt un gouvernement. Dans une dizaine de jours, Scholz sera élu chancelier par le Bundestag. En attendant, lui et ses nouveaux partenaires ont promis du changement, notamment en matière de politique climatique et économique. À Berlin, Delphine Herbollier.
Les 3 partenaires l'admettent, les négociations ont parfois été difficiles. Mais au final, ils ont réussi à se mettre d'accord sur les grandes lignes de la politique des 4 prochaines années. Sociaux-démocrates, écologistes et libéraux promettent la transformation écologique et économique. Olaf Scholz, le futur chancelier, l'affiche. Il veut faire de l'Allemagne le pionnier de la politique climatique. Pour cela, le futur gouvernement se dote d'un super ministre du climat et de l'écologie. Ce sera l'écologiste Robert Habeck, futur homme fort de la politique allemande avec Olaf Scholz. L'Allemagne confirme aussi vouloir sortir du charbon d'ici 2030, soit 8 années plus tôt que prévu. Le futur chancelier Olaf Scholz met aussi l'accent sur le social. Le gouvernement promet une offensive en matière de construction de logements, la hausse du salaire au minimum, une refonte du système des assurances chômage. Au total, c'est une décennie d'investissements que souhaite lancer le gouvernement. Et cela sans augmenter les impôts ni les dettes. Une quadrature du cercle que devra gérer le futur ministre des Finances, le libéral Christian Lindner. Berlin, Delphine Arbollier pour Radio Vatican.
Le chef de l'AIEA rentre bredouille de Téhéran. Raphaël Grossi était en visite auprès des autorités iraniennes pour des discussions de haut niveau, mais aucune avancée n'a été possible, a-t-il déploré. La République islamique persiste dans son programme nucléaire et restreint les inspections. Autant de sujets d'inquiétude pour la communauté internationale, alors que des négociations doivent reprendre à Vienne dans une semaine. Depuis mardi et jusqu'à ce jeudi, Istanbul accueille la 89e Assemblée Générale d'Interpol. L'Organisation Internationale de Police Criminelle doit notamment désigner son nouveau président. Mais cette élection est au centre d'une vive polémique liée à la personnalité du principal candidat. À Istanbul, Anand Lower.
Les défenseurs des droits de l'homme vont suivre de très près ce jeudi l'élection du nouveau président d'Interpol. L'Assemblée Générale de l'organisation pourrait choisir un général émirati accusé de torture. Le général Nasser al-Raisi, responsable des forces de sécurité des Émirats arabes unis, fait campagne depuis l'an dernier pour accéder à la présidence de l'Agence internationale de police criminelle, avec une unique candidature face à lui, celle de la Tchèque Sarka Vrankova. Même si le président d'Interpol n'a qu'un rôle honorifique, les défenseurs des droits estiment que l'élection d'al-Raisi enverrait un message extrêmement négatif et encouragerait certains pays, Émirats arabes unis en tête, a utilisé Interpol pour poursuivre des opposants installés à l'étranger. Plusieurs plaintes pour torture visent le général Raisi, notamment en France et en Turquie. Coïncidence du calendrier ou pas, le prince héritier des Émirats arabes unis était à Ankara hier pour renouer les relations avec la Turquie. Il a notamment promis à ce pays en grande difficulté économique des investissements directs à hauteur de 10 milliards de dollars. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
Et l'appel des ONG n'a donc pas été entendu puisque nous venons de l'apprendre. Le général al-Raisi, accusé de torture, comme vous l'avez entendu, vient d'être élu président d'Interpol. Le fils de Muammar Kadhafi ne pourra concourir à l'élection présidentielle libyenne. L'autorité électorale a rejeté sa candidature invoquant sa situation judiciaire. Saïf al-Islam est en effet recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. En Éthiopie, la contre-offensive du gouvernement contre les rebelles tigréens est menée par le premier ministre en personne. Abiy Ahmed serait actuellement sur le front, c'est un média d'État qui l'affirme. Alors que la guerre s'intensifie dans ce pays, plusieurs appels à la retenue se sont élevés hier de la part des Nations Unies et des États-Unis. La situation humanitaire en Afghanistan est catastrophique. Des millions de gens ont faim et l'hiver ne fait qu'aggraver leur sort. C'est le triste constat dressé par Dominique Stillart, le directeur des opérations du Comité international de la Croix-Rouge, à l'issue d'une visite de 6 jours dans le pays. Celui-ci n'a pas caché sa colère devant l'inaction de la communauté internationale, dénonçant les sanctions qui pèsent sur le pays, tenues depuis le mois d'août dernier par les talibans. Une colère que nous explique Florian Seriec ce matin. Il est l'un des porte-parole du CICR à Genève.
Comme il l'écrit lui-même avec ses mots, c'est le regard vide d'enfants en situation de malnutrition, le regard aussi désespéré des parents qui ne trouvent pas de solution pour soigner leurs enfants. On voit que les prix ont fortement augmenté ces derniers jours, ces dernières semaines en Afghanistan, des choses toutes bêtes, mais un litre d'huile qui coûtait peut-être 5 dollars au début de l'année, maintenant en coûte 10. Un sac de 20 kilos de riz, quant à lui, est passé de 25 à 30 dollars. Et donc, quand on met déjà ces prix bout à bout, par exemple, pour des familles qui ont déjà des revenus extrêmement modestes et qui ne touchent peut-être plus de revenus parce que beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de personnes ne sont plus payées, quand on met tout ça bout à bout, on a en face de nous des familles qui sont dans des situations vraiment désespérées. Donc, la première raison de sa colère, je pense qu'elle est là. La seconde, je pense qu'elle réside dans le fait qu'on savait, qu'on se doutait qu'une telle situation pouvait arriver, qu'on savait qu'elle était évitable surtout. Donc forcément, quand on se retrouve dans une situation pareille, c'est un moment où on doit aider l'Afghanistan. Les grandes nations doivent maintenir leur soutien à ce pays-là. Plus doit être fait pour venir en aide à la population.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Les îles Salomon secouées par de violentes émeutes. Nous sommes ici au beau milieu de l'océan Pacifique et depuis 2 jours, des manifestations secouent la capitale et ce matin, on signale l'incendie de plusieurs bâtiments. Les habitants veulent la démission du Premier ministre qu'ils accusent d'être trop proche de la Chine, alors qu'une grande partie de la population, elle, a des liens avec Taïwan. L'Australie envoie une force de maintien de la paix sur place. Et puis, il y a 5 ans, prenait fin un terrible conflit de près de 60 ans, celui entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC par la signature d'un accord de paix. Hier, les signataires se sont retrouvés à Bogota pour renouveler leur engagement en faveur de la réconciliation, en présence notamment du secrétaire général des Nations Unies. La patrie de Dante et celle de Molière s'apprêtent à sceller leur amitié. C'est ce matin à Rome que le président français Emmanuel Macron retrouve son homologue italien Mario Draghi pour paraffer le traité dit du Quirinal, un traité d'entente annoncé dès 2017 par les deux puissances méditerranéennes. Après un long hiver diplomatique, Paris et Rome actent donc leur coopération renforcée dans un contexte européen instable entre Brexit et transition politique en Allemagne. Cette relation franco-italienne est complexe, ambiguë, elle a survécu à de nombreux malentendus, depuis le général de Gaulle jusqu'à la récente coalition au pouvoir en Italie des 5 étoiles et la Ligue, qui avait provoqué, on se le rappelle, un rappel d'ambassadeurs. Jean-Yves Frétinier, historien de l'Italie contemporaine, revient sur les dernières décennies de relations entre les deux pays, à commencer par celle de l'après-guerre.
Sans remonter dans l'histoire trop lointaine, il y a eu évidemment le coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire lorsque l'Italie avait déclaré la guerre à la France qui était déjà à genoux du fait de l'attaque allemande. Ça, c'est quelque chose qui est resté ancré dans les mémoires françaises. On le voit bien lors du traité de Paris du 10 février 1947 où le gouvernement français impose un traité qui l'Italie juge humiliant au point que l'ambassadeur le signe, mais quitte ostensiblement la conférence sans participer aux cérémonies. Donc ça part assez mal, d'autant que dans les années 48-49, il y a des tentatives un petit peu pour se rapprocher. Ce qui modifie la donne, c'est la rencontre de Santa Margherita des 12 et 14 février 1951, où là, véritablement, il y a une entente entre les Français, qui sont représentés par Pleven et Schumann, et les Italiens, qui sont représentés par De Gasperi et Sforza. Il y a un vrai saut qualitatif dans les relations, qui se comprend parce que il y a besoin de l'adhésion des deux pays au plan Schuman qui donne naissance à la CECA.
Comment se déroulent ensuite les années suivantes? Pourquoi n'y a-t-il pas eu, par exemple, en 1963, un traité de l'Élysée avec l'Italie? Quelles étaient les conditions manquantes à l'époque?
Il y a des hauts et des bas dans ces relations dans les années 50 et dans les années 60. Il y a d'abord des visites diplomatiques. Le président Gronchi, italien, fait une visite d'État en 56 en France. C'est pas anodin, puisque la dernière visite remontait à 1903. Ça faisait 53 ans sans rencontre. Mais il y a des pommes de discorde entre les pays. Il y a d'abord le problème de la décolonisation. Les Italiens ont une politique qui est un mélange de volonté de retrouver une certaine puissance en Méditerranée et de critique de la colonisation, de chercher aussi des débouchés en matière énergétique. Et la France est vue un peu comme un obstacle dans ça. Il y a par exemple un moment de, un peu de tension au moment de la crise de Suez où l'Italie est partagée entre soutien européen et soutien à Nasser. La guerre d'Algérie aussi joue une part importante dans ça, puisque une partie quand même de la classe politique italienne prend fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie, jouant, si vous voulez, aussi une carte d'avoir des matières premières, du pétrole et du gaz. Pour ces raisons, c'est tout de même difficile qu'il y ait un accord aussi fort qu'il pouvait y avoir avec l'Allemagne. L'Italie est beaucoup plus atlantiste, plus favorable à se mettre sous l'abri du parapluie américain, là où la France de gaullienne développe une indépendance militaire avec le choix de l'atome. Et puis enfin, une divergence en matière européenne. Il y a un fédéralisme italien beaucoup plus fort, alors que France gaullienne est en faveur du confédéralisme. Et évidemment, il y a une vraie rupture avec François Mitterrand, donc, qui est à lui un amoureux, c'est très clair, de l'Italie. C'est la mise en place de ces sommets bilatéraux de chaque année. On peut parler en tous les cas d'une embellie très très marquée.
Comment expliquez-vous ce paradoxe d'un faible tandem diplomatique, géopolitique, au regard d'une proximité culturelle, économique indéniable?
Alors c'est vrai qu'il y a un écart. Je crois que c'est toute la difficulté de ces deux sœurs, les fameuses deux sœurs latines. Le général de Gaulle, d'ailleurs, il n'aimait pas cette expression parce qu'il disait, je préférais dire deux cousines, parce qu'entre les sœurs, qui est la sœur aînée? Bon, l'Italie se réclame un peu comme la sœur aînée parce qu'elle est le berceau, d'une certaine manière, d'une partie de la civilisation européenne. Et la France se considère de son côté, elle aussi, comme la sœur aînée parce que puissance plus importante, diplomatiquement, militairement. Et au fond, il y peut y avoir arrogance, mépris, quelquefois des surinterprétations dans un sens et dans l'autre entre ces deux pays, ce qui explique qu'il n'y a jamais eu de grave crise diplomatique. Les sommets bilatéraux permettent aussi de régler d'une certaine manière ces différends. Mais il n'y a pas eu véritablement de véritable politique moteur. Et là, peut-être qu'on vit un tournant avec le traité du Quirinal. Peut-être.
On va l'interroger par Delphine Allaire, l'historien Jean-Yves Frétinier, spécialiste des idées politiques en Italie, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve à 13h pour une nouvelle édition en langue française. D'ici là, je vous souhaite une très belle matinée.